Donc c'est notre premier dimanche de l'Avent. Encore une fois, Avent, ce n'est pas avant Noël, mais avant de aventure événement. Hein ? Et donc on va avoir quatre thèmes sur les quatre dimanches, dont le premier est aujourd'hui, hein, aujourd'hui et trois autres, sur le thème des cantiques de l'Évangile. Donc aujourd'hui on aura la balade de Marie, mais attention, balade avec deux L, parce que d'abord elle a fait une balade avec un L pour aller de son village jusque chez sa cousine. Elle a marché un long voyage, et après il y a eu ce qu'on appelle le cantique de Marie, le Magnificat, qui pour nous ce matin sera la balade de Marie. Nous aurons donc la balade de Marie, l'hymne des anges, le chant de la maman de Lucie, ça il n'y a pas le choix, et le blues de Siméon. Voilà, donc on aura les quatre cantiques dans cette version-là. Ce matin, on est donc avec Marie, et je vais vous lire, donc c'est Luc 1 de 46 à 55. Je vais le lire dans la version Darby ce matin. Et Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur. Car il a regardé l'humble état de sa servante et voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Car le Puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les petits, il a rempli de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches à vide. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence à jamais. » Alors, ça fait partie des textes qui sont un peu, ben, si vous les aimez, vous pouvez les avoir en latin, en musique, hein. Ce n'est pas le top pour les comprendre. Et puis, c'est peut-être des textes qu'on a trop entendus ou qu'on saute un petit peu quand on lit. C'est un cantique, c'est un peu des mots religieux. Elle utilise des mots de l'Ancien Testament, en plus, et on ne sait pas trop de... Hein. Et je voudrais dire, pour ne pas être accusé de plagiat, à peu près tout ce que je vais vous dire ce matin, même si c'est avec mes mots, est tiré de ce livre qui est fabuleux sur Noël. Il est un petit peu ardu à lire par moments. « Joie de Dieu sur notre terre » de Raniero Cantalamessa. Monsieur, maintenant il doit être, je ne sais plus s'il est encore vivant, le livre n'est pas récent, qui faisait les méditations, les petits messages pendant la période de l'Avent au Vatican. Et ce livre est juste fabuleux. Il a une connaissance des textes originaux, de tout, de l'histoire de l'Église. Et en même temps, il y a une vie de l'esprit dedans qui est superbe. Et il étudie tous ces chants, donc ce qu'on va voir, en fait, à part l'histoire de Lucie, bien sûr, avec une profondeur qui est juste magnifique. Et c'est un livre que j'ai depuis peut-être 25 ou 30 ans, ou au moins 30 ans. Tous les 3-4 ans, je le ressors pour le relire. Et j'ai l'impression que c'est la première fois que je le lis, tellement que c'est riche, quoi. Donc voilà, la plupart des choses que je vais vous partager viennent de là, et bien sûr du texte biblique. Et au début, il cite, ben je vous le montrerai après pour ceux qui veulent, il cite Peggy, le poète, hein, Charles Peggy, qui a dit ceci, et ça m'a beaucoup touché, c'est général sur les Écritures, mais « Jésus ne nous a point donné des paroles mortes que nous ayons à enfermer dans des petites boîtes ou dans des grandes, mais il nous a donné des paroles vivantes à nourrir, et les paroles vivantes ne peuvent se conserver que vivantes. » C'est beau. Hein ? Il nous a donné des paroles vivantes, et les paroles vivantes, on doit les nourrir, et les paroles vivantes ne se conservent que vivantes. Mon papa, qui est un amoureux des oiseaux, donc tous les oiseaux blessés, ils arrivaient à la maison, ils les soignaient, puis pour les relâcher bien sûr. Hein. Mais il y a certains oiseaux, même blessés, ils ne les prenaient pas parce qu'ils disaient « ces oiseaux-là, on ne peut pas les soigner, ils meurent en captivité très vite. » Et les paroles du Christ sont comme ça, elles sont vivantes, et dès qu'on veut les mettre dans une boîte, elles meurent. Alors après, il y a des gens qui aiment hein, les insectes ou les animaux empaillés ou cloués avec une épingle. C'est une question de goût. Hein. Moi, je les préfère vivants, qui volent dans la nature. Les paroles du Christ sont comme ça. Donc c'est ce qu'on demande ce matin, c'est que ces paroles que cette dame incroyable, Marie, a prononcées il y a plus de 2000 ans, En fait, elles sont vivantes et elles vont nous nourrir et on veut les nourrir en nous et qu'elles restent vivantes. Et parmi les très 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 belles choses qui sont dites, il dit, certaines personnes, certains chrétiens hein, disent, voilà, 2000 ans, ou maintenant un peu plus, mais 2000 ans nous séparent de ces événements. Et lui dit, c'est pas vrai. 2000 ans nous rejoignent avec ces événements. Hein. On y est. Parce que la vérité, elle est hors du temps. L'esprit est hors du temps. Dieu est lui-même hors du temps. Alors nous, on y est dedans, bien sûr. Hein. Mais ce n'est pas des paroles vieilles de 2000 ans. Oui, c'est des paroles que dans le présent, quelqu'un a prononcées il y a plus de 2000 ans, mais elles nous rejoignent dans notre présent aujourd'hui et elles sont vivantes et on veut s'en nourrir et les nourrir et vivre d'elles. Donc c'est un cantique de l'âme et un cantique de l'Église, c'est à la fois quelque chose de personnel et de corporatif. Hein. Et dans ce cantique, on est les spectateurs du salut qui fait irruption dans l'histoire des humains. Il faut réaliser que donc on est dans une culture où depuis des centaines et des centaines d'années, on attend un événement. Dans certains pays, on attend que l'équipe nationale devienne championne du monde, par exemple, dans un certain sport. Dans d'autres, on a d'autres attentes. On attend la révolution. Dans d'autres, on attend je ne sais pas quoi. Chez ce peuple-là, ils attendaient quelqu'un, quelque chose, hein, cet envoyé spécial, celui qui allait recevoir, on a parlé d'huile ce matin, hein, sur la tête et sur la barbe, l'onction pour être le roi. Hein, c'est ça le Messie, hein, c'est un mot latin qui veut dire, en grec c'est Christ, c'est la même chose, hein, en grec et en latin. Et celui qui a reçu l'onction pour être ce personnage particulier. Puisque dans l'Ancien Testament, on mettait de l'huile sur les prophètes, sur les rois, sur les gens qui avaient une mission particulière. Ça symbolisait le Saint-Esprit qui vient sur un être humain et qui montre de façon visible qu'il va faire quelque chose. Et il y en a eu plein, il y a eu des prophètes, il y a eu des rois, mais ils attendaient celui-là, ce spécial. Et ce cantique, c'est l'introduction de ce personnage, mais aussi de cette situation de salut qui arrive dans le monde des hommes. Et toujours rappelez-vous que, comme je le répète depuis plusieurs dimanches, hein, on enferme les vérités dans des petites boîtes justement pour pas qu'elles nous dérangent, parce que comme ça, on les a comprises. Quand on entend le mot « il nous touche pas », il est sur l'étagère, en haut à droite, deuxième rangée. Le salut, c'est pas juste le fait de que notre âme éternelle n'aille pas en enfer. Le salut, c'est l'action de Dieu pour les êtres humains, pour l'univers, pour toute chose, où il veut tout transformer et amener à la vie. C'est pas pour juste quand on sera mort, c'est pour tout. La planète a aussi atteint la rédemption, la Bible nous dit, etc. Donc ce grand salut qui va être introduit par une petite personne au départ, et Marie est cette toute petite personne, très grande mais toute petite aussi, qui va venir avec ce premier chant, ce premier cantique, introduire cette chose-là, en parler, parce qu'elle a été visitée par Dieu. C'est un chant qui, si on va derrière les mots un peu religieux, hein, nous traduit l'émerveillement et le mystère d'un moment passé, alors j'ai dit qu'il était présent, mais il est passé aussi, hein, qui ne se reproduira pas. Ce n'est pas quelque chose qui va encore arriver. Les effets sont là, on peut vivre de la même chose, mais ça n'arrivera plus. Hein. Dieu ne se réincarnera pas une deuxième fois. Oui, il va revenir, mais c'est différent. Hein. Donc on a tout cet émerveillement, ce passage de l'ombre à la réalité, de la prophétie à l'accomplissement. Et pour nous, encore une fois, bah oui, on a une culture chrétienne, surtout peut-être en Suisse, plus que dans d'autres pays, mais ce n'est quand même pas notre culture d'avoir attendu ça pendant des milliers d'années. Hein. Mais pour eux, c'était... Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on l'étudie un peu attentivement, ce cantique, c'est comme un prélude de l'Évangile, quand je dis l'Évangile avec un E majuscule. Alors moi, je ne suis pas un connaisseur, malheureusement, je n'ai pas la culture, peut-être au ciel j'apprendrai, de la musique classique. Mais je sais que dans certaines œuvres de musique classique, dans le prélude, Il y a plus ou moins tous les thèmes qui vont être développés en détail dans la pièce après. Hein. C'est ce qui, apparemment, est une des choses qui est magnifique avec les gens qui ont ce talent-là. Et ce cantique-là, c'est le prélude de l'évangile. C'est-à-dire qu'en germe, il y a déjà tout ce que le Christ va développer par la suite. Et c'est quelque chose qui est magnifique, et je n'avais jamais fait autant attention à ça. Donc, comme je l'ai dit, Marie, on a sauté, enfin, on verra le chant des anges, et puis d'autres choses une prochaine fois, mais Marie a été visitée par un envoyé de Dieu, et puis qui lui a annoncé que, bien que n'ayant pas connu d'homme, elle va être enceinte, etc. Et elle décide de partir en voyage pour visiter sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte, alors pas surnaturellement, mais quand même surnaturellement, puisqu'elle était quand même âgée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis son mari qui était prêtre a eu une visitation de l'esprit lui aussi, et lui a dit « ta femme va être enceinte hein. ». Et c'était une cousine. Donc elle fait une longue balade, une longue marche. C'est pas juste, elle n'est pas allée de Cours à Sorvilliers, quoi. C'était assez loin. Il y a plusieurs jours de voyage, et puis, ou de Malraix à Béville, là. Elle va plus loin. Et elle voit sa cousine, et sa cousine la salue parce qu'elle ben, aussi est visitée par l'esprit. Hein. C'est intéressant, toutes ces femmes visitées par l'esprit. Où étaient les hommes? Je ne sais pas. Bon, pour porter les enfants, c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Mais. Elle est visitée par le Saint-Esprit et elle reconnaît instinctivement, mais sans comprendre, hein, que Marie est porteuse de quelque chose d'incroyable. Et c'est intéressant parce que les gens qui ont écrit les évangiles les ont écrits très longtemps après hein, que ce soit passé. Ils n'étaient pas là. On leur a raconté, etc. Donc ils avaient une compréhension des choses. Ils l'ont écrit d'une certaine façon. Et le Saint-Esprit a voulu que ce soit ces textes-là qui nous arrivent. Mais... Élisabeth, qu'est-ce qu'elle comprenait de ça hein? Et c'est fou comment l'intuition du Saint-Esprit est plus forte que juste des mots ou une compréhension intellectuelle. Hein? Et elle la salue en disant « Ah, tu es bienheureuse parmi toutes les femmes, etc. » Et Marie, en réponse, va donner les paroles qui sont là. Et la première chose, c'est que ça peut paraître impoli, mais devant cette visitation de l'Esprit et de la présence de Dieu, Marie ne répond pas à sa cousine, elle parle à Dieu. Et c'est intéressant parce que ça met les choses en place, Dieu d'abord. Avant tout prélude à toute relation humaine, bah, il y a la relation avec Dieu. Qui va faire qu'après, il y a le reste, elle a vécu 3 mois avec sa cousine, et elles ont dû parler, papoter, échanger, discuter, se questionner, s'inquiéter, se rassurer. Mais là, dans cette première salutation, Marie s'adresse à Dieu, et donc c'est le texte que je vous ai lu. Hein. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Elle est visitée par Dieu, et en fait, quand un être humain se retrouve dans la présence de Dieu, il y a tout qui change parce qu'il prend conscience ben, de Dieu, même si on ne peut pas en prendre conscience pleinement, bien sûr. Hein. Mais la première conséquence quand on est dans la présence de Dieu, c'est qu'on prend conscience de qui on est. Et on voit ça au travers de l'Ancien Testament. Déjà, Ésaïe, quand il a ses visions et qu'il est devant la sainteté de Dieu, il a « Malheur à moi, je suis un homme pécheur et mes yeux ont vu le Seigneur. » Et puis, en fait, il a peur d'être désintégré et il ne va pas l'être. Hein. Et Marie, dans cette révélation de Dieu, elle a à la fois cet émerveillement, cet éblouissement, ce « Waouh, Dieu est grand, enfin, c'est plus qu'il n'y a pas de mots, c'est immense hein !» Et en même temps, il a penché les yeux sur la petitesse de ma servante. Ce n'était pas de l'humilité dans le sens « Oh, je ne vaux rien !» C'est juste cette prise de conscience de cet immense Dieu infini et de nous, tout petits, et... Après, quand elle le dit avec des mots, bah, c'est décevant. Et le monsieur qui a écrit ce livre utilise une image qui, bah, moi, les images me parlent plus que tout le reste. Hein. Il dit, c'est comme une personne qui mettrait ses deux mains dans un énorme tas de blé, qui les enfonce jusqu'aux avant-bras, comme ça. Et il sent tout le poids de ses tonnes de blé. Enfin, il ne porte pas des tonnes, mais il a les doigts là. Hein. Il sent ce poids sur ses mains. Et puis, il ferme ses mains, il les ressort et il reste quelques grains dedans. Hein. Et c'est ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu. On est là, on est visité par le Saint-Esprit. C'est waouh! Et à la fois, il est immense et je suis tout petit, mais ce n'est pas une petitesse qui fait « Ah, il va m'écraser !» Non, c'est Je prends la dimension de qui je suis devant lui, et en même temps c'est fabuleux parce que dans cette compréhension de « il est immense », ben il est plus qu'immense, il est infini, mais voilà, c'est les quelques graines de blé qui nous restent. Et moi je suis tout petit, et pourtant, il m'aime, il agit en moi, il m'a choisi. Et en fait, ce cantique, il est magnifique parce que c'est le chant de tous les croyants. On va le voir, c'est la conclusion, je suis déjà à la conclusion, mais il dit, il s'est souvenu d'Abraham. Abraham, c'est qui ? C'est pas que le père d'un peuple particulier. Le Nouveau Testament nous dit, c'est le père des croyants. Et les croyants, c'est pas ceux qui croient que Dieu existe, tout le monde croyait que Dieu existe à cette époque-là. C'est les gens dont les yeux s'ouvrent et ont cette conscience comme Marie par la visitation de l'Esprit de « Oh, c'est immense, je suis minuscule ». Et en même temps, je suis aimé, accepté comme je suis. C'est une autre façon de dire ce que je partage souvent, la petite bouteille qui est perdue au fond de l'océan dans une fosse marine à je ne sais plus combien de kilomètres de profondeur, et puis qui dit « je suis dans l'océan et l'océan est en moi ». Est-ce qu'elle contient l'océan ? Bien sûr que non, mais elle est dedans, et puis elle en est remplie, mais elle est toute petite, et puis l'océan est immense. Et c'est exactement ce que vit Marie dans ce moment-là, où visitée par l'Esprit, elle est là, waouh, c'est incroyable. Dieu est... Et ça sort dans ce chant, et c'est tellement beau, tellement beau. Et on a besoin de ça, en fait. On sait que qui est Dieu et qui je suis, c'est les deux grandes questions de l'univers. Il y a plein d'autres, mais savoir qui il est, c'est indispensable pour savoir qui je suis. Et puis savoir qui je suis m'aide à savoir qui il est, et etc. Et c'est un cercle vertueux qui se développe. Et on a besoin, au-delà de la compréhension, de l'étude, qui n'est pas une mauvaise chose, mais qui doit être remplie de la vie, parce que les paroles du Christ sont des paroles vivantes et qu'on ne peut pas les enfermer. Et dans ces moments où on est dans sa présence et où il n'y a pas de mots, là on réalise, waouh. Et à la mesure de Dieu, on réalise qui on est, et puis dans les deux sens. Et certaines traductions anciennes, et puis ce monsieur utilise aussi ce mot, il parle de la jubilation de Marie. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous dit quelque chose, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Je rentre à la maison, je dis rarement, « Ah, ma chérie, je jubile ». Non, ce n'est pas... Mais en même temps, moi j'aime les mots qu'on n'utilise pas souvent parce que du coup, ils ne sont pas usés, on peut y mettre des choses nouvelles dedans. Marie jubile. Et pour moi, mon image intérieure, c'est, vous savez, quand je parle de ce sujet avec des enfants souvent ou des jeunes, je fais la petite expérience toute simple de prendre des verres dans un, je mets du sel et puis dans l'autre, je mets du bicarbonate de soude. Et puis, je verse du vinaigre. Puis, je mets du vinaigre sur le sel. Ça fait du sel qui flotte un peu. Du vinaigre blanc, bien sûr, on croit comme si c'était de l'eau. Et puis, dans celui où il y a du bicarbonate, on en met dedans. Et vous savez ce qui se passe ? Ça déborde. Ça déborde. Ça mousse et ça déborde. Mais la jubilation, c'est ça. C'est lorsque certaines choses entrent en contact et il y a une réaction chimique. Lorsque notre âme... par le Saint-Esprit, est en contact avec la personne de Dieu, avec sa grandeur, avec la vérité, il se passe quelque chose beaucoup plus grand, mais du même genre que lorsque le vinaigre arrive sur le bicarbonate de soude. Et on ne peut pas le contenir. Marie, elle arrive là, et il y a une visitation de l'Esprit. Bon, en plus, elle a été visitée déjà par Dieu, puisqu'elle a un bébé dans le ventre de façon surnaturelle. Et c'est là... Et nous, on a ces quelques mots, et ça peut être des mots tout secs. « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, et je jubile parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Mouais, dit comme ça, bof, ça ne fait pas jubiler. Mais lorsque le Saint-Esprit vient et qu'on réalise, nous, dans notre situation, dans notre histoire, je suis qui, moi ? Un petit pingouin inconnu que personne ne connaît, qui est là, tout, même pas une fourmi qui se promène sur un. Et puis, tout d'un coup, il y a ce Dieu immense, infini, qui est à l'origine de tout. Il vient Et non seulement il jette son regard sur moi, mais il me reconnaît. Et il m'appelle par mon nom. Et puis il me dit, tu sais quoi ? Je vais faire pour toi de grandes choses. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai pris l'habitude, quand j'étudie un texte, de le mettre dans 4 ou 5 traductions. Mais voilà, même si je dis que je ne suis pas trop toujours d'accord avec tout chez les protestants et les évangéliques, mais j'ai que des traductions protestantes et évangéliques. Puis à un moment, le monsieur, il cite le texte, et lui, il est de tradition catholique, et il n'a pas le même texte que moi. Alors j'ai été voir, c'est intéressant. Dans toutes les Bibles protestantes, mais toutes les traductions que j'ai vues, il est dit, Marie parle et elle dit, « Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. » Les traductions catholiques disent, « Le Seigneur a fait en moi de grandes choses. » Effectivement, le texte peut être compris pour et en. Hein. Donc il n'y en a pas un qui a raison ou qui a tort, mais c'est quand même intéressant. Hein. Le côté rationnel, et puis que ça reste un peu à l'extérieur de nous, quoi, hein, on veut... Les boîtes étaient de travers, on les a mis de droite. Voilà, c'est ça. Hein. On a réformé toutes ces boîtes qui étaient fausses, qui avaient des mauvaises étiquettes. Il y en a qui contenaient des produits toxiques. Donc, on a vidé, on a remis les étiquettes comme il faut. Mais on a bien remis dans les boîtes. Hein. On a fermé les boîtes. Il ne fallait pas que ça fasse désordre. Hein. Quand même que ça reste propre en ordre. Non. L'Éternel a fait en moi de grandes choses. Ben, elle peut le dire. Hein. Imaginez, mesdames, qui êtes maman, qui l'avait été, ben, on l'est pour tout jeune, mais qui avait porté des enfants. Hein. Waouh, il se passe quelque chose là-dedans. Hein. Je ne sais pas pour vous, les hommes. Alors, je ne parle pas de quand on arrive à l'hôpital pour l'accouchement. Hein. Mais pendant les différentes grossesses de mon épouse, j'ai toujours eu un petit pincement de jalousie quand même. Parce que même si maintenant j'en ai presque l'apparence, mais ce n'est pas pareil. Hein. Avoir la vie en soi, comme ça, ça doit être un truc... Hein, ça serait mieux que vous en parliez que moi, mais voilà, c'est moi qui suis là. Donc Marie dit, l'Éternel a fait en moi de grandes choses. Et bien sûr, c'est plus que ce bébé physiquement qui est là. Hein, mais ça, c'est la réalité pour nous tous. Est-ce qu'on pense que Dieu fait de grandes choses ? Ben, c'est déjà beaucoup, on est des croyants. Si on n'était pas croyants, on ne serait pas là dimanche matin, on serait dans notre lit ou en train de faire du sport ou au cinéma, je ne sais pas. Hein. Donc on croit qu'il fait de grandes choses. Est-ce que je réalise que l'Éternel a fait en moi de grandes choses ? Pas que moi je sois quelqu'un de grand, du tout, au contraire. Il a jeté les yeux sur la minusculité, il existe ce mot ? Je viens de l'inventer. Hein ? La toute petitesse de ma personne. Et mon âme, à ce contact, jubile. Et je suis obligé de sortir de la classe, parce que ça rentre plus dans quelque chose. Ça... Sauf que quand je veux en dire avec des mots et vous le partager, comme vous, dans votre sens, hein, il me reste quelques graines dans les mains et je suis là frustré. Et je me dis, mais pourquoi je ne sais pas... Le dire, le peindre, le chanter, le danser, le, je ne sais pas, le quelque chose, quoi. Et Dieu me dit, mais pas de souci, hein. Ce que je fais en toi, je le fais aussi dans les autres. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on est une famille. J'aurais quand même une petite rectification à apporter au chant de ce matin. Oh, qu'il est doux pour des frères, ça fait quand même que la moitié de l'humanité, hein. Des frères et des sœurs. Et comme on est poli, on dirait des sœurs et des frères. Mais ce n'est pas votre faute, c'est le texte qui est comme ça. Hein. Mais ça m'a presque gêné. Je dis, est-ce que les femmes peuvent chanter ? Déjà, elles n'ont pas de barbe pour que l'huile y descende dessus. Hein ? Donc, est-ce qu'elles peuvent avoir l'huile ? Heureusement, oui. Et qu'il est doux pour des êtres humains visités par l'Esprit de Dieu de jubiler ensemble. Hein ? Si on le conjugue, c'est joli. Hein. Hier matin, nous jubilions ensemble. Vous jubilatez ? Que nous jubilâmes, hein, c'est bon. Ah, j'aime les mots, quand ils sont vivants. Et puis, le temps passe, excusez-moi. J'ai quand même pas 2000 ans pour vous raconter tout ça. Donc, cette première partie, elle est magnifique, et puis ça jubile. Mais on arrive dans la deuxième partie, et là, il y a la partie, dans un sens, la plus incroyable. Marie va annoncer dans ce cantique... j'appelle, là je l'appelais comme ça avant de lire ce monsieur, mais beaucoup appellent, le grand renversement. Christ, Jésus, quand il vient sur terre, c'est pouf, pouf. Et on va voir ça dans les quatre rencontres qu'on a. Les choses sont remises, enfin, pour nous, sont à l'envers, mais en fait, sont remises à l'endroit. Hein, tout simplement. Parce que nous, on est nés avec la tête en bas, puis on a toujours marché avec la tête en bas, et puis on pensait que c'était normal d'avoir la tête en bas. Et un jour, Christ vient et il nous remet la tête en haut et les pieds en bas, et on se dit « Oh, c'est bizarre, je suis à l'envers. » Non, tu es à l'endroit. Parce qu'on est né à l'envers et on a toujours vécu à l'envers. Et cette deuxième partie du texte, donc il a fait de grandes choses, son nom est saint, ben, je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est magnifique, et sa miséricorde, il a puissamment opéré par son bras. Il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a renversé de dessus leur trône les puissants. Il a élevé les petits. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches avec les mains vides. C'est joli. Est-ce que, après la naissance du Christ, les rois sont tombés de leur trône? Est-ce que le Christ et ben, Jésus, papa, maman, n'ont pas dû s'enfuir pour fuir les puissants qui voulaient les tuer? Est-ce qu'on a donné à manger aux pauvres? Est-ce qu'ils sont plus morts de faim? Est-ce que l'ordre social a été renversé? Ben, tristement, on dit non, ça se saurait. Hein. Et est-ce que quelque part, ça s'est passé depuis? Ben non. Pourquoi? Parce que même si de temps en temps, un pauvre devient riche, il devient pire que quand il est les riches qui étaient là avant lui. Hein. Parce que ça, c'est le monde dans lequel on vit. Pourquoi ce texte, il dit ça, alors? C'est de la fausse publicité? Ou ça parle d'un truc au ciel, peut-être un jour, ou je ne sais pas quoi? Non. Parce que tous les verbes qu'elle utilise, ils sont dans un temps spécial en grec qu'on n'a pas en français, mais qui parle d'une action passée, qui est faite, et puis qui est irréversible, qui est paf, c'est fait. Hein, il a élevé les petits. Et il a renvoyé les riches avec les mains vides. Ben, ça parle de quoi? Et je vous disais que c'était le prélude de l'évangile. Hein. On a dans ce parti-là tout ce qui va être développé dans ce qu'on a appelé les béatitudes, le sermon sur la montagne. Hein. Que là, Jésus va développer en détail beaucoup plus. Mais ça y est, là, le thème est là déjà. De quoi il parle? Et là, moi qui suis un amoureux des illustrations, ce monsieur en utilise qui est fabuleuse. Imaginez que pendant la nuit, la monnaie de tous les gens très très riches, elle est dévaluée. Ils s'endorment, ils sont multimilliardaires, et ils se lèvent le matin et leur monnaie n'a plus cours. C'est ça qui se passe. Pas dans le monde visible malheureusement, ou je sais pas malheureusement ou pas, mais si moi j'aurais aimé que ce soit le monde visible aussi quand même. Hein? En fait, c'est l'introduction de cet invisible royaume, le royaume de Dieu. Quand Jésus dit « il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux », ce n'est pas un problème d'avoir des richesses, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Hein? Mais c'est que, en fait, les gens qui sont riches et qui se confient dans leur richesse, et on peut être riche de beaucoup de choses, hein, l'orgueil est une richesse, et il est parlé là aussi des orgueilleux, ce n'est pas une question de combien on a sur notre compte en banque. Hein. Mais tous ceux qui sont riches d'eux-mêmes et de là, hein, dans ce moment-là, avec la venue de Christ, il y a une dévaluation qui fait que ce qu'ils ont, ça n'a plus de valeur. Oui, on peut toujours avec acheter des voitures et des montres, mais ça n'a plus de valeur. Et les pauvres et les affamés, c'est ceux qui sont conscients, qui sont petits, qui sont rien, et qui ont un cœur ouvert pour autre chose. Et Christ vient et leur amène autre chose. Hein. Et après, si vous pensez à tous les enseignements de Jésus, ben, ils tournent beaucoup autour de ça. Hein. Quand Jésus leur raconte cette histoire, hein, cet homme qui se dit « Ah, voilà, mon âme, sois tranquille, sois en paix, j'ai stocké dans mes greniers, j'en ai pour jusqu'à la retraite, et j'ai le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le sixième pilier. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ça va aller à qui tes greniers pleins de richesses ?» Hein, voilà. Il y aura un autre riche qui ne les récupérera pas, ne vous inquiétez pas, ça servira à quelqu'un. Mais voilà, il y a une dévaluation complète, et ça, ce n'est pas une chose qui va se passer, ça s'est passé. Et c'est magnifique parce qu'en fait, c'est comme la vie éternelle. Après 10 ans que je répète la même chose, j'ai vu que beaucoup d'entre vous commençaient de l'avoir. En tout cas, de se dire, c'est peut-être pas faux en plein. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. C'est aussi... c'est une qualité de vie qu'on peut vivre ici-bas. Le royaume de Dieu, ce fameux royaume, quand on dit à Jésus, il est où ? Hey, ne le cherchez pas. Il est en vous, à l'intérieur. Il est là. Dans ce royaume-là, les choses sont avec les pieds en bas et la tête en l'air. Les richesses sont les vraies richesses. C'est quoi les richesses ? C'est l'amour, c'est l'affection, la fraternité, la bienveillance, le pardon, la grâce, la miséricorde, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai sauté ça, mais quand Élisabeth accueille Marie et qu'elle dit « tu es remplie de grâce », et le monsieur fait ressortir un point qui est important, en fait, c'est parce qu'elle était vide d'elle-même, peut-être pas dans le mauvais sens, mais elle a accepté de se vider de ses projets, de ses idées, de ses ambitions, de ses richesses, même si elle était pauvre et humble, et elle est remplie de grâce. Et c'est une petite parenthèse, mais elle vaut le coup d'être citée. À un moment, il dit ça, parce qu'il dit, en fait, c'est la championne de la grâce, c'est Marie, je ne sais plus où c'est. Et puis il dit, c'est quand même triste que les gens qui ont le plus et le mieux écrit sur la grâce et qui l'ont préféré au mérite aient refusé de parler de cette dame. Parce que, voilà, s'imagine que c'est un truc catholique, la Sainte Vierge Marie. Non, non, c'est une des personnages les plus incroyables de la Bible. Et elle est remplie de grâce parce qu'elle a accepté de se vider de ses richesses naturelles. À son niveau, elle, c'est quoi ses richesses ? Avoir une vie normale, avoir un gentil mari qui n'était pas super riche, mais qui avait sa place dans le village, et puis d'avoir une vie respectable. Parce qu'il ne faut pas rêver, Marie, jusqu'à la fin de sa vie, quand elle passait dans son village, pour la plupart des gens, c'est « ouais, Saint-Esprit ». Ça ne serait pas plutôt le facteur. Voilà. Et nous, on vit dans une culture où ce n'est pas grave, alors c'est le facteur, quoi. Il y a plusieurs facteurs d'ailleurs. Mais non, là on est dans une culture où c'est le déshonneur complet, où on peut être lapidé pour ça. Toute sa vie, elle va porter ça, elle n'aura pas une vie normale. Son fils va mourir d'une mort atroce. Il y a quoi de pire pour une maman que de voir son fils torturé et mourir avant elle, tout ça. Elle a perdu beaucoup, Marie, énormément. Dans l'annonce de l'ange, une épée te transpercera le cœur. C'est waouh. Mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Je renonce à mes richesses à moi, et je suis toute petite. Mais j'ai été remplie par Dieu. Et dans ce moment-là, son âme exalte le Seigneur. Et elle annonce ce grand renversement où voilà les grands dans le royaume de Dieu. Et c'est repris dans tout l'évangile, dans tout le Nouveau Testament. Jacques, je disais récemment, on entend rarement prêcher sur ces textes. Jacques 5, 1 et 2. Pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver, riches, car vos richesses sont pourries, et le cri des ouvriers dont vous avez volé le salaire est monté jusqu'à moi, dit l'Éternel des armées. C'est dans le Nouveau Testament. Alors oui, on peut faire une application littérale, effectivement, c'est pas bien de mal payer ses employés, de les maltraiter, etc. Mais ça s'applique à tout le monde, ça s'applique à moi quand je me dis je suis riche, je suis un bon gars. Je suis un bon pasteur, les gens m'aiment bien, j'ai une belle vie, je fais quelque chose de bien. Malheur à toi, riche. Comme Jésus le dit sur la prière, tu as déjà reçu ta récompense. Les gens disent que tu es quelqu'un de bien, tu as réussi, c'est super, c'est cool, tu as ta récompense. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. On doit choisir à chaque instant, je construis où ? Un royaume visible sur terre, à monnaie sonnante et trébuchante, où je construis pour un invisible royaume, qui, oui, il est sur terre, mais il n'est pas visible. Alors oui, par les yeux de la foi, il se voit, il est une réalité, il me remplit, il me fait jubiler par moments et pleurer à d'autres. Mais voilà, et c'est terrible quand on regarde l'histoire de ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. Ces efforts, cet argent, cette énergie mise pour construire un royaume terrestre, pour avoir le pouvoir, pour avoir le contrôle, pour avoir des façades, pour avoir du vu, de l'approbation, du et on est prêt à tuer pour ça, et à forcer les gens, et à les obliger, à les maltraiter, à les manipuler. Et c'est pas ça. Ces gens-là, Marie dit, Dieu les a renvoyés les mains vides. poches pleines peut-être, mais les mains vides. Et il a pris les petits et il a dit, voilà. Et on a une illustration, alors vous allez me dire, oui, à l'époque, c'était peut-être, ben, ça faisait une différence, mais quand Jésus, Marie enceinte, cherche un endroit pour qu'elle puisse accoucher, hein, et j'arrive au bout, vous affolez pas, et on ne la veut pas dans les endroits pour les riches, là je parle matériellement, il n'y a pas de place pour elle. Mais sûrement que s'ils avaient pu aligner suffisamment, on leur trouvait une place. Vous savez comment c'est, les places, il y en a toujours des places. Ça dépend du prix qu'on peut payer pour les avoir. Hein. Donc ils n'ont pas de place. Il y a tous ces gens riches qui dorment dans des draps de soie ou de satin, et puis qui sont là dans des belles auberges. Et puis il y a Marie qui accouche dans la paille, dans une écurie, avec le cheval, l'âne et le bœuf, et tout ça, etc. 2000 ans après, mais même pas 2000 ans après, qui connaît le nom d'un des riches qui dormait dans un hôtel de luxe ce soir-là ? Mais Marie, Joseph, Jésus, le monde entier les connaît. On les oubliera jamais. Hein ? C'est ce que fait Jésus quand Marie prend ce qu'elle avait, qui était sa plus grande richesse matérielle, ce parfum avec ce vase et ce parfum dedans qui valait une année de salaire ou plus. Hein, et elle le brise et elle le met sur les pieds de Jésus. Et elle les embrasse, elle les suit avec ses cheveux. Et c'est juste, elle était en train... Elle a été visitée par Dieu dans ce moment de jubilation qui amène à l'adoration. La vraie adoration, c'est ça. Hein, c'est ce qui vient quand, ça, quand le Saint-Esprit rencontre notre cœur et que ça, et il sort l'adoration. Et là, elle donne tout ce qu'elle a comme richesse matérielle. Et puis, bien sûr, les hommes qui pensent bien, oh, c'est un gaspillage, avec ça, on aurait pu aider les pauvres. Là. Et Jésus dit, ah, vous m'énervez, taisez-vous. Vous savez quoi ? Eh bien, partout où on parlera de moi, on parlera de cette dame. Voilà. Elle, on s'en souvient. Elle reste. Pourquoi ? Ben, c'est une pauvre. Ben, c'est une riche dans le royaume de Dieu. Et ça, on va s'en souvenir. Hein. C'est ça, Dieu. Alors, ce message et ce grand renversement, c'est de ça qu'on doit être les témoins. Point à la ligne. L'évangile, c'est ça. J'ai été visité par Dieu. Il a fait en moi de grandes choses. Et qu'est-ce que je fais ? J'en parle, comme Marie, elle va voir, là c'est sa cousine, mais sa voisine, sa sœur, son père, son frère. L'Éternel a fait pour moi de grandes choses, il a versé en moi, et ça... Et je suis obligé de sortir de l'endroit où il y a les gens sérieux, parce qu'il n'y a pas de place pour moi, mais là, moi, je veux juste vous dire que l'Éternel a fait en moi de grandes choses. Hein ? Et on n'est pas là... Alors, ça serait quoi le plan pour témoigner, pour que les gens croient que ça ne marche pas ? Ça, c'est pour les marchands d'aspirateurs, pour la publicité sur Internet. On est ailleurs. On est dans un royaume invisible où les petits sont grands, où les grands sont petits, où tout est à l'envers, où il y a à l'endroit, mais ça paraît à l'envers, etc. Et puis nous, on est là pour simplement témoigner. On est les dépositaires de ce grand renversement, de cette grande visitation. Et puis, ben, à nous d'inventer notre cantique. On ne va pas le dire avec les mots de Marie, hein. Alors, ce que je vous propose pour terminer, et c'est un morceau de Glorious, et je propose qu'on l'écoute